Salatu selam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, je ne sais pas pour vous, mais il m'est arrivé souvent de me poser la question de savoir pourquoi je fais un rappel, pourquoi je prends la parole, pourquoi je donne de mon temps et de ma personne pour venir en aide à des personnes dans le besoin. Effectivement, en tant que croyant, on a le devoir de toujours renouveler son intention. C'est vrai que c'est un acte d'adoration, malheureusement, qui échappe à énormément des gens. Et à travers cet acte-là, on peut faire du profilage. On peut mesurer la profondeur d'une personnalité, d'une spiritualité. Car l'intention, en fait, c'est ce qui conditionne notre stimulant, notre carburant à vouloir œuvrer. D'ailleurs, quand on déprime et qu'on perd du peps à la tâche, on a le devoir de renouveler son intention pour justement régénérer notre motivation. Et donc, je me suis posé la question de savoir pourquoi. C'est là où je me mets en condition. Admettons, j'arrêterai et je ne penserai qu'à moi. Est-ce que je serai heureux? Est-ce que je serai heureux de vivre dans une île sur un hamac à siroter une citronnade? Est-ce que je serai heureux? Eh bien, au fond, la réponse, je l'ai. Je ne pense pas que je le serai, car il fait partie, à mon sens, des objectifs de l'existence que de chercher à se dépasser, à œuvrer, à se rendre utile. Alors, se rendre utile envers qui? Envers soi-même, déjà, envers les autres, et vis-à-vis, éventuellement, d'une cause qui doit nous transcender. C'est là, à mon sens, que la vie tire de la signification. Malheureusement, on a été baigné dans des sociétés qui nous ont enseigné la philosophie de l'égoïsme, malgré nous, sans qu'on en prenne conscience. C'est-à-dire qu'on a commencé à devenir des gens dont l'objectif est de ne penser qu'à soi. Et franchement, à mon sens, c'est malheureux que de vivre, et je dirais même de vivre pour vivre, en fond. Quand on vit pour vivre, c'est comme si la vie était adorée, c'est comme si la vie était prise pour une fausse divinité. À la base, on est censé vivre, la vie est un prêt, mais ça ne doit être qu'un moyen en vue de quelque chose qui doit transcender l'existence. Dans ce sens, le martyr trouve toute sa signification, à savoir œuvrer et se sacrifier pour faire triompher une idée qui est censée nous dépasser. Et là, la vie a du sens. Mais vivre pour vivre, où tous les jours se ressemblent, et la vocation de l'existence va se limiter à remplir son ventre, s'accoupler, se reposer. Franchement, à ce niveau-là, je pense qu'on ne se distinguerait pas trop des animaux, puisque c'est vrai que les animaux se reconnaissent à ces trois instincts. Manger, se reposer, s'accoupler. Au-delà de ces trois instincts, l'être humain, justement, lui, possède cet instinct de religiosité, à savoir que sa vie sur cette terre, elle a un sens qui transcende, justement, ses besoins primaires. Et l'objectif, justement, c'est d'accéder à cette signification-là et de se donner les moyens de s'épanouir à travers elle, à savoir être utile pour soi en fonction du véritable intérêt, c'est-à-dire être profitable à notre vie dans l'au-delà. Moyennant notre adoration ici-bas, moyennant l'action de délaisser les péchés, mais pas que, puisque en étant au service des autres, on est au service de soi-même. La yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Vous ne serez jamais véritablement croyant tant que vous n'aimerez pas pour votre prochain ce que vous aimez pour vous-même. En fait, il va de l'intérêt de soi que de veiller aux intérêts des autres. Et c'est pourquoi vous avez des gens qui trouvent un bonheur à déclencher le bonheur chez les autres. Et donc, au-delà de se rendre utile pour les autres, il y a aussi l'action de se rendre utile pour une cause qui, elle, va permettre le bonheur collectif. Là, en fait, vous avez les trois degrés. Veiller à se rendre utile à soi, ensuite à se rendre utile aux autres, mais c'est vrai, on peut faire les deux en même temps, en veillant à se rendre utile à une cause qui, quant à elle, sera bénéfique à soi et aux autres. C'est là où je me dis qu'il y a du sens à faire du rappel, même si à l'heure d'aujourd'hui, le rappel a perdu en valeur, étant donné qu'il y a une prolifération du savoir. Moi, je me rappelle à l'époque, quand les gens faisaient des rappels avec des SMS, et tellement on en recevait qu'on ne les lisait même plus, les SMS. Et du coup, à force de faire des rappels sans être concentré, sans être animé par une intention pure, on le fait de manière mécanique, en fait, on tue le rappel. Trop de rappels tue le rappel. Et je me rappelle à l'époque, on ne lisait même pas les textons qu'on recevait. On les effaçait automatiquement. Et ça, c'est un non-respect vis-à-vis de la science. En fait, c'est le danger. Quand il y a quelque chose qui se prolifère un peu partout, etc., elle perd en valeur. La valeur est proportionnelle à la rareté d'une chose. La valeur d'une chose est proportionnelle à sa rareté. Plus une chose est rare, plus la chose a de la valeur. Et quand vous avez, à l'époque, moi je me rappelle à l'époque, où il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient des rappels, forcément le rappel il avait un impact, étant donné qu'il était rare. Alors d'aujourd'hui, le rappel s'est proliféré, s'est démocratisé. Tout le monde fait du rappel, et je ne décourage pas la chose. À partir du moment où vous êtes profitable d'une manière que ce soit, il faut encourager. Il faut encourager. Vous ne savez pas, peut-être que la personne qui va faire son rappel du fin fond de sa chambre, il va éclairer la conscience d'une autre personne perdue dans le fin fond de sa chambre. Donc, on doit encourager. Donc, il y a des avantages à cela, mais il y a aussi des inconvénients. Et les inconvénients, c'est que le rappel va perdre en valeur. Et c'est ce qui me pousse, alors d'aujourd'hui, en tout cas, à être désintéressé de tous ces contenus numériques. Franchement, moi, ce que je constate à l'heure d'aujourd'hui, c'est que je ne parviens plus à me rassasier, en tout cas à m'apaiser par les contenus numériques. Que ce soit en termes de rappel ou en termes de documentaires ou de reportages qui peuvent être plus ou moins instructifs. J'arrive plus. Auparavant, c'est vrai que j'avais une tradition, c'est juste avant de dormir, de me mettre un documentaire et d'essayer d'apprendre à travers celui-ci sur la société, sur l'histoire, sur des faits de société, sur l'histoire, sur des documentaires à l'endroit de thématiques précises. J'aimais me cultiver de la sorte. Et malheureusement, en tout cas ce que je constate aujourd'hui, c'est que je n'y parviens plus. Je me lasse rapidement de ces contenus numériques. La question que je me pose, c'est est-ce que j'ai fait le tour ? C'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce qu'on a fait le tour au point où... Parce que je me rappelle, quand on était plus jeune, c'est vrai que les discours du vendredi faisaient le même effet. À force d'entendre toujours les mêmes récits, eh bien, ça ne nous captivait plus et on s'endormait. Vous avez des gens, en fait, qui piquaient du nez lors du discours du vendredi, tellement le discours n'était plus captivant, étant donné que le discours devenait redondant. Et on remarque la même chose, alors, d'aujourd'hui, à l'endroit de ces contenus numériques. Ils sont redondants, non instructif quand c'est pas le contraire, parce que vous avez énormément de contenu en fait qui distrait d'une distraction qui éloigne d'une saine spiritualité, des contenus qui font rire, des contenus qui mettent en relief des choses qui sont pas saines, des contenus qui mettent en exergue des violences qui ne devraient pas être légitimes, etc. Donc vous avez énormément de contenu malheureusement qui détourne d'une certaine croissance spirituelle. Moi, je me rappelle à l'époque, je faisais le même constat, mais à l'endroit des librairies. Je me souviens que je ne pouvais même plus acheter des ouvrages dans les librairies, étant donné que très souvent, après lecture, on n'avait rien appris. C'était le constat que je me faisais. On achète un ouvrage à 10 euros, on le lit, et à la fin, on n'est même pas capable de résumer des concepts à même d'avoir fait évoluer positivement notre vue, d'avoir élargi notre esprit. Non, rien. Et ça me mettait dans un état angoissant. Je me rappelle, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai appris de cette lecture ? Et c'est là où je me disais qu'il y a une différence à faire entre un livre instructif qui élargit votre vue, votre esprit, et à travers lequel donc vous avez évolué positivement, et un livre non instructif. C'est-à-dire que, en fait, on peut faire le même parallélisme avec les supermarchés. Vous avez des rayons qui sont intéressants, et d'autres rayons, c'est des bêtises. C'est des bêtises. En fait, c'est des produits transformés, ultra transformés. Vous avez des rayons avec des ingrédients de base, des fruits, des légumes, des produits laitiers, des viandes. Et vous avez les autres rayons ultra transformés, les gâteaux, etc., etc. En fait, je pense que le monde dans lequel on se trouve, eh bien, ce principe-là va se développer de plus en plus. Il y aura les choses de valeur et les choses qui ne sont pas de valeur et qui vont se multiplier. et on risque de se perdre à se promener dans ces rayons de produits qui n'ont plus de valeur et qui se multiplient et qui se multiplient. En fait, c'est visible à l'endroit de la science. La science, à l'heure d'aujourd'hui, elle ne devient plus instructive. Elle se prolifère, on a tout partout, mais ce n'est pas pour autant que les actes suivent, que le regard du cœur s'élargit. Et c'est pour ça, moi, je me suis donné vraiment pour tradition, à chaque fois que je devais faire un cours ou poster un audio, d'enseigner un concept. C'était ma philosophie, en tout cas, ma tradition, parce que je regretterais, à mon sens, hein, je serais sujet à des remords si je produis un audio qui ne sera pas un même de vous avoir fait évoluer positivement, de vous avoir appris quelque chose. Et c'est vrai que si aujourd'hui j'ai envie de vous enseigner quelque chose, c'est cette notion de maturité. Qu'est-ce que la maturité ? La maturité, en fait, c'est ce sentiment de s'être développé, d'avoir quitté un état antérieur qui est inférieur à cet état qui lui sera postérieur. Il y a donc une évolution, une meilleure appréciation des choses. On parle de maturité quand quelqu'un progresse et qu'il y a un état avant et un état après. L'avant et l'après. C'est grâce à cette évolution où l'individu gagne en maturité quand il évolue d'une manière à distinguer un avant et un après. Et à titre illustratif, je vais vous citer l'exemple de l'enfance. On a tous connu cette période où on pouvait, moyennant l'imagination, se faire des scénarios et les vivre avec intensité autant qu'on pourrait le vivre dans la vie réelle. Voilà, c'est l'âge de l'imagination, le 7 ans jusqu'à 11 ans, 12 ans. Et pour d'autres personnes, ça peut monter un peu plus haut. Mais je pense qu'on a tous connu cet état où l'imagination était tellement importante qu'on pouvait prendre du plaisir à s'allonger dans notre lit et à dormir pour pouvoir rêvasser et penser et se faire des scénarios et les vivre avec intensité. En fait, c'est un état. Ensuite vient l'âge adulte où on a moins la capacité de rêvasser et on est plus confronté à la vie réelle. Donc il y a l'avant et l'après. Et vous avez même des gens qui peuvent déprimer de ne plus pouvoir rêvasser autant qu'ils le faisaient auparavant. Parce que quand on acquiert une maturité, c'est difficile de faire marche arrière. Et à l'endroit de la constitution physique, on peut rêvasser à une période de notre vie et ne plus pouvoir le faire parce qu'on évolue. Et donc, on parle de maturité quand il y a un avant et un après, et quand l'après est meilleur que l'avant. Donc, celui qui, à l'âge adulte, est confronté à la vraie vie, ben, il va préférer plutôt vivre les choses en acte plutôt que de les vivre en pensée. Car l'acte est supérieur à la pensée, étant donné qu'il constitue en quelque sorte la concrétisation de cette pensée. Malgré qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous avez des gens qui préfèrent rêvasser et ne pas chercher à concrétiser justement leurs rêves. Bon, ça c'est un autre profil et je pense que je réserverai un audio sur ce profil particulier qui peut être toxique quand les gens privilégient le monde imaginaire et virtuel sur la vie réelle jusqu'à générer un déni vis-à-vis d'une certaine réalité. Donc je préfère en parler dans un autre audio. En tout cas, pour aujourd'hui, le propos est censé être axé autour de la maturité. Et c'est là où il est important de mettre en relief justement cette notion, car on peut faire un parallélisme entre cette période de l'enfance où on était axé autour de l'imagination et cette période de l'âge adulte où la concrétisation de ses rêves devient plus attractif justement que l'action de rêvasser en soi. Et si on franchit le cap de l'âge adulte, personne ne chercherait à revenir dans le monde de l'imaginaire et à s'enfermer dans sa chambre, à penser, etc. En fait, j'ai l'impression qu'il en va de même avec ces contenus qui peuvent être instructifs selon un certain angle, mais à une certaine dose, on peut s'en lasser. J'ai l'impression qu'il existe un état où on ne parvient plus à se satisfaire de ce savoir qui n'est plus instructif. En fait, cet état-là va nous pousser à rechercher le vrai, l'authentique. Est-ce que, moi je me pose la question, est-ce que le fait de ne plus être intéressé, captivé autant qu'avant de tous ces contenus numériques indique le passage d'un état à un autre état et qu'il y ait un avant et un après? Dans ce cas-là, franchement, c'est une opportunité qui peut nous être offerte. Moi je me rappelle de l'imam Razali qui disait, Rahmatullah alayh, il se peut qu'il existe un état qui soit par rapport à votre veille ce que votre veille est à votre sommeil, à savoir cet état d'illumination. Quand on parvient à comprendre profondément les choses et à s'interdire de revivre une vie baignée, noyée dans l'insouciance. En fait, cet état-là, je pense que tous les prophètes l'ont vécu. Ils ont eu la révélation. Et donc, ils ont vu ce qui se passait après la mort, ce qui se passait dans les tombes. Et donc, forcément, pour eux, il y a l'avant et l'après. Et donc, quand ils se mélangent à des gens qui ne font partie que de l'avant, ils les observent à travers un regard qui est plus global que eux et peuvent les voir à travers un regard de pitié et d'indulgence. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce qui se passe derrière. Ils ne savent pas les conséquences de leurs actes. Ils agissent en fait dans un profond aveuglement. En fait, c'est là où on doit se poser la question. En fait, la maturité, c'est cet état qui nous permet de jauger entre l'avant et l'après, à l'endroit d'un regard. Et quand on a la foi et qu'on observe les choses à travers un œil absolu, forcément, forcément, on ne peut plus agir dans ce monde avec insouciance. Et on devrait être tous être animés par une personnalité tranchante à l'endroit des connaissances. On devrait avertir les gens du danger qui les attendent, comme si on le voyait, ce danger-là, si on a la foi. Mais si on n'a pas la foi, on risque de se mélanger à cet état d'insouciance au péril de notre propre foi à nous. Et il est là, le danger. Et c'est pour ça que je ne sais pas si le marche arrière est possible à l'endroit de la maturité, mais visiblement, oui, je pense qu'il y a des gens qui ont connu un état spirituel tellement élevé qu'ils ne pouvaient pas plus supporter d'être dans un état d'insouciance et de se mélanger avec des personnes insouciantes. Et donc forcément, quand ils vont discuter avec les autres, ils vont les discuter avec le désir de leur faire un rappel radical, un rappel qui va sortir des tripes. En gros, je t'avertis d'un danger, du conséquence de tes actes. Parce que côtoyer des gens sans leur faire de rappel, Ça révèle que nous-mêmes, on n'est même pas convaincus en notre propre foi. Parce que si on serait convaincus en notre propre foi, quand on discourrait avec d'autres personnes, on le ferait avec la conviction d'une personne qui voit un danger au loin et qui avertit les gens qui ne voient pas ce danger-là. Parce que lui, il le voit. Et donc, il va être dans un état de panique, une panique visible dans son propos. On n'a pas cette panique-là. Et quand on n'a pas cette panique-là, ben forcément, notre propos ne va pas sortir du cœur. Et un propos qui ne sort pas du cœur ne touche pas le cœur. Ce qui sort de la bouche s'arrêtera à l'oreille. C'est pourquoi, à mon sens, il y a une opportunité qui nous est offerte si on ne parvient plus à se satisfaire de tous ces contenus numériques qui se sont multipliés et qui ont fait en sorte que le rappel n'a plus d'impact. L'opportunité qui nous est donnée, en fait, c'est l'opportunité de revenir à quelque chose de plus vrai, de plus authentique. Si on ne parvient plus à se satisfaire de ces contenus numériques, alors pourquoi on ne chercherait pas à se satisfaire de quelque chose de plus vrai? Parce que l'objectif, en fait, de s'écarter de quelque chose d'illusoire, de faux, c'est pour aller vers le vrai. Il ne faudrait pas qu'on tombe dans le piège d'une certaine dépression. « Ah, je ne parviens plus à rêver, je déprime de ne plus pouvoir rêver. » Ah non! Si on ne parvient plus à rêver et qu'on commence à devenir adulte, l'objectif, c'est qu'on concrétise notre vie dans les actes, par des actes. Et donc, si on ne parvient plus à se satisfaire des contenus numériques, l'objectif, c'est de chercher à se satisfaire par des contenus qui ne seront pas numériques. Donc forcément, ce discours-là ne va pas plaire à des gens qui gagnent à cela. Mais moi, je considère qu'on vit une époque où le téléphone a carrément le pris le rôle d'une fausse divinité. Et je pense que spirituellement parlant, on a besoin de se défaire du téléphone. Même si, alors d'aujourd'hui, c'est un outil qui nous permet de créer du lien. Et je le rappelle, ça se fait partie de la nature humaine que de chercher à créer du lien. C'est même un essentiel de l'humanité. Ça fait partie de ses instincts. Ça fait partie des instincts de l'homme que de chercher à créer du lien. L'homme peut déprimer d'être seul. Il peut souffrir d'être seul. Donc il va chercher à se créer des liens. Et très souvent, malheureusement, ce n'est pas des liens qui lui seront bénéfiques. Mais l'homme cherche à s'intégrer ou à créer du lien. Et parfois, il utilise, et très souvent même, le téléphone. Et du coup, forcément, quand l'individu, dans une démarche spirituelle, va essayer de se défaire du téléphone, il va mettre de côté tous ces liens virtuels qui sont associés à son téléphone. Parce que vous avez des gens, ils sont tellement dépendants du téléphone qu'ils sont dépendants de la notification au point de faire varier leur état intérieur, leur humeur à ces fameuses notifications. J'en ai une, je suis bien, j'en ai pas, je suis malheureux. Je rentre chez moi, je regarde mon téléphone, est-ce qu'il y a une notif ou pas? Vous imaginez l'état dans lequel le cœur de l'homme se trouve quand il devient dépendant d'un téléphone au point de faire varier son humeur à des notifications. Allah, l'être humain a besoin de revenir vers Allah Ta'ala et de redévelopper une spiritualité authentique. C'est pourquoi, si dans une démarche spirituelle, on se donne pour objectif de se défaire de ce téléphone-là, forcément, on va perdre beaucoup de liens virtuels. Mais ça, c'est l'inconvénient. Et je ne sais même pas si c'est un inconvénient, parce que ça peut être un avantage. À quoi bon avoir des liens virtuels quand ces liens-là n'ont pas beaucoup de valeur? Mais si, en délaissant tous ces liens virtuels, on œuvre à construire du lien vrai, alors là, il y a un avantage. Se défaire du numérique pour construire du réel. Je le répète, vous avez tous ces gens qui se trouvent derrière ces plateformes, qui s'enrichissent et qui veulent contrôler le monde moyennant cette plateforme et qui y sont parvenus. Parce que alors d'aujourd'hui, le monde est là où il est, ce n'est pas pour rien. L'affaire Epstein met bien en relief justement que le monde est dirigé par des crapules. Et pas n'importe lesquelles, des crapules satanistes. Donc ce n'est pas un hasard si le mal l'a emporté sur le bien. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit baisser les bras. Certes, le monde est dirigé par des crapules, maintenant c'est devenu évident, et c'est pas pour autant qu'on doit baisser les bras, on doit être animé justement, et c'est là où se rendre utile pour une cause devient fondamental. On ne doit pas leur laisser ce monde, car c'est eux qui mènent justement ce monde au chaos et à la guerre de tous contre tous. Et on ne doit pas leur laisser. On doit se donner les moyens de faire revivre en nous cette âme révolutionnaire pour faire chuter ce système. Pour faire chuter ce système en fait qui gouverne le monde. Et dans ce sens, franchement, il est fondamental de se défaire de tout ce qui peut entraver l'application de notre tawhid. Et dans ce sens, je pense que là, l'intention qui a pour vocation de renouveler notre foi prend tout son sens, en fait. Là, l'intention, elle prend tout son sens. On doit revenir au sens profond de la ilaha illallah en réactualisant notre foi. Car à l'époque, c'était certes des idoles qu'il fallait briser, mais ces idoles-là peuvent prendre des formes diverses. Elles peuvent se réactualiser. Et vous avez des idoles modernes, comme ce téléphone, comme ces plateformes, où vous avez des gens qui malheureusement font varier leur humeur à des notifications. Jusqu'où est descendue l'humanité? Jusqu'où? Et au profit donc des gens qui veulent répandre le mal sur la terre. Donc c'est pour ça que l'être humain a besoin, je pense, de revenir à une spiritualité profonde. Moi, personnellement, en tout cas à titre personnel, je pense que je ne vais pas tarder à me défaire de toutes ces plateformes. Alors, il y a certes des inconvénients. Je m'en rappelle, il fut un temps où j'avais des milliers de contacts. J'ai fait un tri immense parce que bon, il fallait s'écarter des personnes toxiques, etc. Et malheureusement, on vit une époque où rares sont les liens authentiques vis-à-vis desquels on peut gagner spirituellement. Les gens, ils veulent récupérer, mais ne veulent pas donner. Normalement, pour pouvoir recevoir, il faut un petit peu donner quand même. Hein. Donc vous avez des gens, ils sont un peu opportunistes. Et je pense que j'ai fait beaucoup de vidéos ou d'audio sur le profilage. Et de toute façon, on ne sera jamais rassasié de ces profils-là parce qu'il y aura toujours à apprendre. Il y aura toujours, à titre illustratif, vous avez des gens, par exemple, hein, c'est un profil qui me traverse l'esprit au moment où je vous parle, des gens qui peuvent être toxiques, mais plus tard, pas au début. C'est des gens qui peuvent se rendre disponibles, donc vous pouvez même être choqué de voir des personnes aussi disponibles, aussi présentes, aussi proches, aussi affectueux. Mais en fait, il y a un piège derrière. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont très disponibles, qui sont très dispos et qui sont même, j'ai envie de dire, un peu envahissants. Mais à la moindre contrariété, ils peuvent vous bouc-émissairiser, c'est-à-dire vous rendre responsable de tout leur malheur, présent ou passé. Et du coup, ils peuvent être toxiques. Donc, Chétan, en fait, sait qu'il existe des profils qui, au début, vont avoir une image plus ou moins attrayante, captivante. Voilà, on peut être attiré par ce genre de profil. Mais il sait, Chétan, que à la moindre contrariété, et il y en aura des contrariétés, ces gens-là sont capables, par exemple, d'intérioriser une colère qu'ils ne vous diront jamais. Il y a des gens qui peuvent être possessifs et qui veulent vous avoir pour amis, mais en toute exclusivité, et qui ne supporteront pas de vous partager. Du coup, tant que vous êtes un objet entre leurs mains, ça leur fait du bien, et ok. Mais dès que vous allez vous écarter un petit peu ou vous allez avoir votre vie un peu perso, etc., ça va leur faire mal. Et quand ça leur fait mal, ils vous envoient des ondes. Franchement, on vit une époque où il y en a marre des gens toxiques. Et moi, la limite, la ligne rouge, c'est quand une personne, à travers sa toxicité, porte préjudice à votre intégrité physique. C'est-à-dire que ça se voit, les symptômes de la toxicité se voient sur votre corps. Là, c'est la ligne rouge. Ces gens-là ne méritent pas votre amitié. Et très souvent, pour atteindre ce degré-là, c'est des gens qui intériorisent beaucoup. Il faut de la laideur. Hein. Vous ne pouvez pas être toxique sans une laideur. Donc, c'est des gens qui, nécessairement, vont avoir une aptitude à focaliser, d'une focalisation malsaine, et en plus en intériorisant, c'est-à-dire que ce ne seront pas des gens qui vont être transparents, etc. Voilà. En fait, on vit une époque où c'est devenu rare. Les bons amis sont devenus des gens rares. Donc, vaut mieux avoir peu d'amis, mais des gens sur qui on peut compter et qui peuvent nous être utiles d'un point de vue spirituel et qui nous apportent dans notre croissance. Parce qu'au fond, la maturité, c'est ça. La maturité, c'est de grandir. Mais là, je ne parle pas de la croissance physique. Je parle de la croissance spirituelle. C'est quand on grandit à l'endroit de l'intelligence, quand on comprend mieux les choses, et à l'endroit du cœur, quand on acquiert une certitude qui nous rend hostile à notre état d'insouciance antérieure. C'est ça la maturité. Et donc il existe une maturité intellectuelle et une maturité spirituelle. J'essaie en tout cas à travers ces audios-là de vous permettre de grandir en vous apportant des concepts à travers lesquels je pense que vous avez le devoir de vous poser des questions. Et il y a franchement plein de thématiques à aborder. La thématique du devoir entre les résultats. Très souvent, on est confronté à des déceptions quand on assume une certaine responsabilité sans que cette dernière apporte des résultats. Et donc, je pense que traiter des thématiques comme celle-là, ça peut nous être très utile. Les thématiques comme la mode, comme le devoir, comme... En tout cas, il y a plein de thèmes et je pense que je vais les aborder en podcast. Je pense que je vais arrêter de diffuser mes audios sur toutes ces plateformes-là parce que j'ai envie d'être aussi cohérent. Je ne peux pas vous dire de faire cette hijra numérique si moi je suis à l'intérieur de celle-ci. En fait, c'est le même problème avec la hijra, la véritable hijra. On ne peut pas dire aux gens de quitter une terre de coufre quand on est à l'intérieur de cette terre de coufre, sinon on ne devient plus crédible. Mais ce n'est pas interdit pour autant. Il faut qu'il y ait des gens un peu partout pour pouvoir faire des rappels, parce que sinon ça risque d'être pire. Moi, j'ai juste envie d'être cohérent avec moi-même. Et donc quitter toutes ces plateformes numériques. Donc forcément, les liens vont diminuer. Mais l'objectif, ce sera de viser le peu, mais le qualitatif. le peu, mais les qualitatifs, inshallah, pour faire en sorte que nos propos se concrétisent en actes dans la vie réelle. Donc il y a énormément de thèmes à aborder, et puis si vous voulez vous aussi proposer des thèmes, pourquoi pas, et pourquoi pas même des échanges avec des questions et des réponses. L'essentiel, c'est que je m'éloigne de toutes ces plateformes, Telegram, YouTube, etc., et que je m'oriente plus vers quelque chose qui me sera en tout cas profitable à titre individuel, et pourquoi pas ceux qui me suivront sur cette nouvelle rubrique que je vais installer sur mon site. إن شاء الله. ولا جماعتي أبث وجوني لذي العتمات فديجور ليلي مد رداه وليس لليلي فجر يؤاتي مضيت وحيدا بصحراء عمري وتاهت عن الدرب بخطواتي أقلب عيني على ضياء يلوح فأمسك حبل نجاتي وكيف سأبصير في الدرب نورا وقد تاه من يأتي